Bonjour tout le monde et welcome dans ce débat de midi consacré à la famille royale britannique. Pas une semaine sans qu'on ne voit la trombine des personnages qui la composent dans les journaux. Tiens, ce matin encore, celle du prince Harry qui annonce un livre pour l'an prochain où il racontera son histoire haut et bas compris, dit-il. Je parle de personnages parce que s'ils n'étaient pas réels, ils pourraient être chacun les héros d'une saga et les créateurs de la série The Crown sur Netflix ne s'y sont pas trompés. Des amours passionnés, des trahisons, des drames, des mariages de rêve, des palais, des cachotteries et des potins, le tout sur fond d'histoire avec un grand H. Il y a tous les ingrédients, avec la tête d'affiche, tête couronnée le 2 juin 1953, la reine Elisabeth II, devenue avec sa malice et ses tenues colorées, une icône cool et pop encore à 95 ans. Mais qu'adviendra-t-il de cette famille au sourire parfait sur le balcon de Buckingham une fois que la reine ne sera plus? Quel avenir pour la monarchie britannique dont les codes, les protocoles et le conservatisme sont aussi critiqués et bousculés? Et d'où vient cette fascination qui semble traverser les époques? Passion Royale Family, c'est le programme jusqu'à 13h.
Camille Cronier, le débat de midi sur France Inter.
Her Majesty Queen Elizabeth II is crowned.
In the United Kingdom and around the world, people have risen magnificently to the challenges of the year.
Lady Diana, c'est un véritable conte de fées pour cette jeune fille qui était, paraît-il, amoureuse du prince Charles depuis l'âge de 11 ans.
And we heard the media who were completely fascinated by everything we did.
And annus horribilis.
Édition spéciale après la disparition tragique la nuit dernière, disparition accidentelle de la princesse Lady Diana, 36 ans donc, qui est morte à Paris dans un accident de voiture.
Dans une robe de tulle et de dentelle, Catherine Elizabeth Middleton s'avance au bras de son père vers l'hôtel de l'abbaye de Westminster.
It's pretty amazing and I mean I have the two best guys in the world, so I'm really happy.
Le cercueil du prince Philippe entre dans la chapelle Saint-Georges de Windsor, porté par les Royal Marines.
God Save the Queen, en punk ou en classique, pour ouvrir cette émission et un résumé des 68 dernières années. Résumé non exhaustif, bien sûr, hein, sinon il y en aurait pour des heures et je pense que mes invités ne diront pas le contraire. Bonjour Jérôme Caron.
Bonjour.
Grand reporter et spécialiste de la famille royale au magazine Point de Vue, qui a fait combien de couvertures avec la famille depuis son existence, depuis le couronnement de la reine en tout cas?
Je serais incapable de vous dire, ça fait 75 ans que Point de Vue existe, il s'est plutôt orienté vers la monarchie au début des années 70, après avoir été un équivalent de Paris Match. Bref, ce que je peux vous dire en revanche, c'est que depuis un grand nombre d'années plus que j'y suis, on est à une moyenne de une à deux couvertures, une couverture par mois minimum en tout cas.
Bonjour Philippe Chassaigne.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bordeaux, professeur d'histoire contemporaine et particulièrement l'histoire du Royaume-Uni à l'université Bordeaux-Montaigne. Donc à peu près incollable vous aussi sur cette sacrée famille dans tous les sens du terme.
Incollable, je ne sais pas, mais enfin bon, à force d'en parler, de travailler dessus, je pense que je connais quelques éléments en effet.
On va vérifier ça dans un instant. Linda Mage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes styliste et vous avez créé le blog Dans le boudoir de Kate, donc vous avez une vraie passion, vous, on peut le dire.
Oui, exactement. Moi, j'ai créé le site référent français Dans le boudoir de Kate Middleton, qui est dédié à l'actualité de la duchesse de Cambridge. Je mets aussi l'accent sur l'analyse de sa garde-robe, parce que ses tenues fascinent les femmes de la planète. Mm-hmm. Donc, je donne quelques conseils.
Mais vous parlez de la famille en général aussi?
Exactement, oui. Je suis l'actualité royale, j'y suis bien obligée. Kate couvre de très nombreux engagements, elle est suivie, elle est déjà reine.
Et enfin live, attention, on va voir si ça sera le cas, on en parlera aussi. Live from London, Alexander Seal, bonjour.
Hello, bonjour.
Hello.
Oui, cette famille royale me passionne beaucoup.
Ouais, alors vous êtes journaliste, correspondant pour plusieurs médias français, donc à Londres. Les médias français qui traitent l'actualité de la famille royale, autant que les Anglais, ou quand même un petit peu moins, ou peut-être plus, je sais pas.
Peut-être autant que les Anglais. À mon avis, autant que les Anglais. Peut-être on a vu ça avec le mariage royal en 2018, et après on a vu ça avec le décès du prince Philippe et l'inauguration de la statue de Diana récemment.
Et on va essayer de comprendre d'ailleurs pourquoi les Français sont eux aussi autant passionnés par cette monarchie britannique. Jérôme Caron, d'abord je le disais, hein, comme dans toutes les bonnes histoires, il y a de bons personnages. Est-ce qu'on peut donc déjà présenter rapidement la galerie un petit peu de ceux qui composent cet univers, hein.
Donc à la tête, comme vous le disiez, vous avez la reine Elisabeth II qui a 95 ans, qui a eu 4 enfants, parmi lesquels Charles, qui est son héritier direct, le fils aîné, qui lui-même a eu 2 enfants, William et Harry, avec la princesse Diana. Et donc, on va rester sur la ligne directe parce que ce sera plus simple. Donc ça, c'est l'ordre de succession de la monarchie britannique. Tous ces personnages jouent un rôle de premier plan au sein de l'institution. Ils sont les garants et les représentants de cette institution qui existe depuis 1200 ans maintenant.
Philippe Chassaigne, est-ce que la famille royale britannique a toujours été aussi connue? Avant la reine Elisabeth II, c'était comment?
Si vous voulez dire le public français, oui, depuis le règne de Victoria, chaque fois qu'un souverain britannique s'est rendu en France, ça a suscité un énorme intérêt de la part de la population de notre pays. Je prendrai l'exemple du, alors c'est pas le premier, c'est le deuxième voyage de Victoria à Paris en 1855. Où donc elle fait l'objet d'un accueil populaire extrêmement favorable, extrêmement positif. Il y a un épisode, c'est elle se rend donc aux Invalides devant le tombeau de Napoléon avec son fils, le futur Édouard VII, le prince de Galles, et qui s'agenouille devant. Devenu roi, ce prince de Galles, Édouard VII, se rend à Paris en 1903. Et là encore, l'accueil au départ est frais, on est quand même dans une période très anglophobe, et il s'est retourné l'opinion en sa faveur, et l'année suivante, ce qu'on appelle l'entente cordiale est signée entre les gouvernements français et britanniques. Mmh. En 1938, le roi George VI et la reine Elisabeth, donc les parents d'Elisabeth II, se rendent à Paris pour resserrer l'entente diplomatique et militaire entre les deux pays alors que les dangers s'accumulent, et à nouveau très grand accueil, et puis la reine, on s'est rendu en France en 1957, 1972, 92, 2014, si je me souviens bien.
2014, c'est la dernière fois.
Voilà, chacune de ces visites, ça ce sont des visites officielles, il y en a eu d'autres en privé, mais chacune de ces visites a suscité un très fort. En 1992, elle est venue ici à Bordeaux, et donc pendant 2 jours, ça a été aussi un grand succès populaire.
Linda Mach, à vous vient d'où, vous, votre passion Royal Family, et Kate en particulier, mais la famille en général?
Alors, la famille royale, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour la reine Elisabeth. C'est un personnage qui est connu dans le monde entier. Je me demande bien comment le monde réagira le jour de sa disparition, puisqu'elle est, tout le monde la connaît, tout le monde a grandi avec elle. Bon, moi, j'admire sa garde-robe, j'admire sa rectitude, son sens du devoir. Elle a promis de servir son pays. Et il est vrai que me revient en mémoire une fameuse phrase de Lord Beaverbrook, qui avait, lui, en son temps, prophétisé la disparition de la monarchie. Il avait dit, je crois, la monarchie britannique disparaîtra dans un bâillement d'ennui. Et force est de constater qu'elle s'est renouvelée, qu'elle s'est ancrée à la société moderne, que c'est l'ère aujourd'hui, l'âge du bonheur, avec les mariages, les naissances, les joies, les peines, puisque le prince Philippe est décédé récemment.
Mais donc ce qu'on disait tout à l'heure, le côté un petit peu série réelle, en fait, de personnages avec différents, comme vous dites, des joies, des peines, ça vous intéresse aussi?
Ça m'intéresse, ouais, parce que c'est un Dallas royal.
Ah, oui.
On a un super casting chez les Windsor. La femme trompée, le mari infidèle, les pièces rapportées, l'introduction des roturiers, la duchesse de Cambridge et de Sussex. La famille royale a su se moderniser. Si vous voulez, son devoir, c'est de durer. Donc, pour durer, il faut se moderniser. Et elle a ouvert ses rangs, justement, à des personnes qui n'étaient pas issues de la noblesse.
Alexander Seal, les Anglais dont vous faites partie, qu'est-ce qu'ils pensent des étrangers, et donc particulièrement des Français, qui s'intéressent autant à leur monarchie, à votre monarchie?
Les Anglais, ils estiment qu'ils ne parlent pas beaucoup, mais il faut regarder vraiment la télévision française ou la presse française pour voir ce que disent la presse française à propos de la monarchie, et c'est ce que je fais avec mon métier. Et ils font un point positif avec cela. et je suis tout à fait heureux. Et par exemple,
pardon, il n'y a pas un côté bizarre. Excusez-moi, il n'y a pas un côté bizarre. Vous vous dites pas qu'est-ce qu'ils ont à s'intéresser autant à nous. Vous vous intéressez pas forcément à ce qui se passe de notre côté.
Non, pas du tout, parce que la reine, elle est parfaitement francophone. Elle a connu pratiquement tous les présidents de la République. Donc je crois non. La reine, en fait, c'est un personnage qui apaise. Elle n'a pas de parti pris dans le paysage politique britannique. Mm. Donc je crois que c'est ce que les Français aiment bien chez la reine d'Angleterre. Quand elle a fait des discours sur le Covid récemment, elle a apaisé la nation. Et c'est ce que les Français aiment bien, en fait.
C'est ça, vous pensez, Jérôme Caron? Il y a aussi ce dont parlait Linda Mash, tous les ingrédients qui font un Dallas, comme elle le disait.
Il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer la fascination des Français pour la monarchie britannique. D'abord, il y a un phénomène d'identification réelle. C'est une famille, mais c'est une famille au grand jour. C'est une famille dont les difficultés, comme dans toutes les familles, les pièces rapportées, comme le disait Linda, sont exacerbées par le cadre doré. Donc vous avez un décor extraordinaire avec une vie ordinaire, mais qui ne peut pas être ordinaire parce que le décor est extraordinaire. Mmh. C'est un espèce de c'est presque schizophrénique quelque part. Et beaucoup de membres de la famille royale ont du mal, ou tout au moins parfois préfèrent se retirer, ou tout au moins se décaler de cette espèce de grand système extrêmement écrasant. Ensuite, la France a toujours eu des monarques, a toujours eu une fascination pour leurs monarques, et nous n'en avons plus, ou tout au moins nous n'en avons plus de totalement déclarés. Sans porter aucun jugement sur le bon ou le mauvais côté de cette chose-là, il nous reste les châteaux, il nous reste, mais ils sont inhabités, ce sont des
mais est-ce patrimoine. Mais est-ce que c'est la monarchie en elle-même, ou est-ce que c'est le fait de qu'il y ait, ce soit cette famille comme ça? Est-ce que ça serait une famille très riche, mais qui serait pas, il y aurait pas de roi de reine, ce serait pas une monarchie? Est-ce que ça pourrait pas être la même chose, presque?
Non, parce que il y a un côté sacré, il y a côté éternel. On les suit depuis, on peut en parler. Vous pouvez parler de la reine d'Angleterre avec votre grand-mère, elle sait qui c'est. Vous pouvez parler de Meghan Markle avec votre petite cousine, elle sait aussi qui c'est. Ça englobe un spectre extrêmement large de générations.
Toutes les générations.
Et ça perdure. Vous pouvez, comme le disait Philippe Chassagne, on peut suivre exactement d'où viennent-ils. C'est très rare d'avoir une généalogie qu'on peut s'approprier, même si ce n'est pas la nôtre.
Philippe Chassagne, justement, alors la revue des Deux Mondes, qui est un mensuel, consacre son numéro de juillet à la monarchie britannique et titre « Le sacré qui nous manque ». Et donc, vous parliez à l'instant, Jérôme Caron. Est-ce que vous, Philippe Chassagne, vous pensez qu'il y a cette dimension sacrée qui nous est renvoyée et peut-être qu'on compense par une monarchie détruite chez nous aujourd'hui?
La dimension sacrée, elle est tout à fait importante, en effet, parce que il faut pas oublier que lorsqu'il y avait des rois en France, le roi de France était, avec le roi d'Angleterre, le seul à être sacré dans toute la chrétienté, c'est-à-dire de recevoir l'onction. Et les autres souverains étaient couronnés, mais le roi d'Angleterre et le roi de France étaient sacrés. À Reims, le roi de France, et donc l'abbaye de Westminster pour le roi ou la reine d'Angleterre. En 1953, lors du couronnement de la reine Elisabeth II, le moment de l'onction, justement, est le seul moment que les téléspectateurs, puisque tout le monde le sait, le couronnement était retransmis en direct à la télévision, l'onction est le seul moment que les téléspectateurs n'ont pas pu voir. Et un dé d'or a été placé entre les caméras et la reine, et l'onction a eu lieu à l'abri du regard des caméras. Et les Français, se souviennent quand même que consciemment, inconsciemment, au moins ils l'ont appris dans les livres d'histoire, à l'école primaire, au secondaire, que nos souverains étaient sacrés. Et donc, cette image du sacré, vous le disiez, nous est renvoyée. Je pense que ça contribue à expliquer l'intérêt des Français pour cette institution, pour la monarchie britannique et pour la famille qu'il incarne.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de miroir, Linda Mash, sur aussi le fait qu'ils ont des problèmes, ils ont des scandales, ils ont des choses qui ne vont pas, et quelque part on se dit, comme disait Jérôme Caron, il y a un côté réel, irréel, c'est-à-dire qu'ils nous ressemblent tout en étant totalement à l'opposé de ce qu'on peut être dans notre vie.
Oui, c'est, comme je le disais précédemment, c'est une parfaite surface de projection pour tout à chacun. Mais outre la dimension de sacré, cette idée aussi de la famille, il y a aussi, enfin moi c'est, je vais donner un peu mon sentiment, pourquoi j'aime cette famille, pourquoi je suis passionnée par l'actualité de la famille royale d'Angleterre, c'est aussi parce qu'elle est dépositaire d'un art de vivre à l'anglaise, la cérémonie du thé, les scones, enfin les
mais justement,
sucrées.
Pardon, c'est un apparat qu'en France, les dorures aussi, les carrosses, oui, etc., c'est un truc qu'on n'aime pas du tout, en tout cas quand ça se passe en France.
Écoutez, la reine a été la première surprise lors de sa dernière visite. Elle a été accueillie par le président François Hollande. Elle a été ovationnée le jour de l'inauguration d'un square qui porte son nom. Et elle était vraiment très étonnée parce qu'elle a vu les Français l'acclamer. Mmh. Et elle a eu ces mots. Elle a dit au président Hollande, mais écoutez, je ne comprends pas ce qu'ont les Français. Ils m'acclament, mais vous avez coupé la tête à vos monarques. Mais pourquoi m'acclament-ils ?
Jérôme Caron.
Il l'acclame parce qu'il y a vraiment une fascination. Et en effet, il y a un soft power, il y a une espèce de marque Windsor, il y a une volonté d'exporter en fait l'Angleterre à travers la famille royale.
Mais pardon, mais si, excusez-moi, je vous coupe, mais si notre chef d'État, évidemment on n'a pas de monarchie, mais si notre chef d'État se mettait à avoir un peu des protocoles comme à la famille royale, ça passerait pas du tout dans la société française.
Non, parce qu'on vote pour lui et parce qu'il a du pouvoir exécutif, direct, législatif.
C'est le fait qu'elle n'ait pas de pouvoir qui change tout.
Quelque part, ça la rend intouchable, puisqu'elle ne prend jamais parti de manière officielle. Après, de manière subtile, il y a beaucoup de fois où elle a fait passer un avis où on a compris que des choses lui plaisaient ou ne lui plaisaient pas, notamment s'est opposée à Margaret Thatcher plusieurs fois. Mais le président français, la Ve République est considérée par certains comme une forme de monarchie constitutionnelle. Le président est tout puissant, il nomme, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, comme le rappelait Jacques Chirac. Donc ce pouvoir-là peut être tout de suite interprété négativement ou positivement selon le camp dans lequel vous souhaitez. Alors que la princesse Elisabeth II, comme le disait Alexander Seal, elle, au moment de la pandémie, elle réunit tout le monde. Elle a jamais autant parlé lors de la crise du Covid-19, qu'elle a plus parlé lors de la crise du Covid-19 qu'elle ne l'a fait lors de son règne, pratiquement. Elle a parlé 3 fois, c'est énorme. C'est des prises de parole publiques qui sont extrêmement rares. Et elle réunit tout le monde. C'est son fardeau, quelque part, parce qu'elle ne peut pas exprimer ses opinions. Et en même temps, c'est ce qui fait qu'elle dure, et c'est ce qui fait qu'on lui pardonne, ou tout au moins que tout le monde les suit.
Allez, on parle de la famille royale britannique aujourd'hui dans le débat de midi, réalisé par Valérie Ayestara et préparé par Adrien Nazelli avec Sophie Perwaguet, très fan de la famille royale. Et puis Antoine Gomez est à la technique. When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, fly away and find the sun when winter comes. Must fix the fence by the acre plot. 2 young foxes have been nosing around. The lambs and the chickens won't feel safe until it's done. I must dig a drain by the carrot patch. The whole crop spoils if it gets too damp. And where will we be with an empty store when winter comes? When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly away and find the sun when winter comes. I must find the time to plant some trees in the meadow where the river flows. In time to come, they'll make good shade for some poor soul. When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. Summer's gone, we'll fly away and find the sun when winter comes and find the sun when winter comes. When winter comes, c'était Sir Paul McCartney, anobli par la reine en 1996.
Le débat du midi. sur France Inter.
Et si je vous parle de la reine d'Angleterre, c'est parce qu'on parle de la famille royale d'Angleterre aujourd'hui dans le débat de midi. Tiens, d'ailleurs, Philippe Chassaigne, en quoi la reine Elisabeth II se détache aussi quand même de Victoria, selon vous? Est-ce que peut-être tout a commencé au moment de son couronnement, déjà quand elle a accepté, contre l'avis, je crois, de Churchill, que ce soit diffusé à la télévision? C'était déjà un signe de dire, attention, moi je vais faire avancer les choses et je vais être différente?
Enfin, c'est un tout petit peu plus complexe, parce qu'en fait, lorsque l'idée de transmettre le couronnement à la télévision a été avancée, la reine était contre, parce qu'elle pensait qu'elle ne supporterait pas la pression que ça allait impliquer. En fait, c'est son mari, le duc d'Édimbourg, qui lui, toujours partisan des nouveautés, de secouer un peu le cocotier, comme on dirait familièrement, a insisté pour que donc le couronnement soit retransmis en direct à la télévision. Donc voilà, effectivement, c'était une innovation, enfin un élément tout à fait neuf. Évidemment, ce n'est pas possible pour ses prédécesseurs, puisque la télévision, pour George VI, la télévision n'existait pas.
La reine, quoi qu'il en soit, est un personnage très particulier, Philippe Chassaigne.
Oui, il a été souligné à plusieurs reprises le fait qu'elle n'exprime pas publiquement ses opinions politiques, et c'est vrai, à la différence de Victoria, qui elle ne se gênait pas pour les faire connaître. Mais c'est justement la raison pour laquelle la monarchie a pu survivre aussi longtemps, enfin en Grande-Bretagne, alors que dans d'autres pays, les monarchies ont été balayées. C'est parce que, depuis le 19e siècle, le souverain britannique est au-dessus des partis. Et Elisabeth II l'a appris de son père, George VI, et elle l'a merveilleusement appliqué depuis qu'elle est montée sur le trône, en 1952. En revanche, la reine doit être elle doit incarner l'unité de la nation. Elle doit incarner, quels que soient ses propres sentiments, les joies et les peines de la nation. Et on l'a vu très nettement en 1997, lorsque au départ la reine et la famille royale restent à Balmoral, etc., ne réagit pas, là les Britanniques ne sont pas contre.
À la mort de Diana, évidemment.
Voilà, à la mort de Diana. Et lorsque la famille royale revient au palais de Buckingham, et lorsque la reine et le prince Philippe sortent devant les grilles du palais de Buckingham pour regarder donc les centaines et les milliers de bouquets de fleurs déposés, à ce moment-là, il y a un renversement de l'image de la monarchie dans l'opinion, et c'est le retour de la cote d'amour.
C'était une erreur, Jérôme Caron? Ça a été évidemment mal vu qu'il n'y ait pas de réaction.
Bien évidemment, ça a été très mal vu. Personne n'aurait pu imaginer. Mais alors, en tant que professionnel, nous, on sentait que ça montait. C'est-à-dire qu'il y avait, l'été précédent, il y a eu énormément de photos qui ont été publiées. Diana en maillot de bain léopard sur le yacht de Dodi Al-Fayed. On sentait que s'il y avait vraiment, on était sur le coup, ça montait. En revanche, personne n'aurait pu imaginer que ça se termine comme ça, d'une part. Et d'autre part, personne n'aurait pu imaginer la ferveur, l'espèce d'appropriation de cette douleur par le monde entier, où tout le monde, absolument partout, pleurait, écrivait des petits mots, en effet, qui étaient laissés devant le palais de Kensington. Les journaux britanniques, à cette époque-là, faisaient 30 pages tous les jours précédant la cérémonie. Il y avait 30 pages sur cette actualité-là. C'était énorme. Et donc, ça a surpris tout le monde, et ça a montré l'impact énorme qu'a toujours la famille royale.
Et on va écouter justement la princesse Diana, c'était en 1993, donc 4 ans avant sa mort. Elle expliquait qu'elle ne s'attendait pas à attirer autant l'attention.
When I started my public life 12 years ago, I understood the media might be interested in what I did. But I was not aware of how overwhelming that attention would become.
Traduction, quand j'ai commencé ma vie publique il y a 12 ans, j'ai compris que les médias s'intéresseraient peut-être à ce que j'allais faire, mais je n'avais pas conscience de combien cette attention deviendrait écrasante. Alexander Seal, cette attention, elle était particulière de la part des médias britanniques ou de la part des médias du monde entier, et peut-être même les Britanniques qui essayaient de la préserver? Non, parce que les tabloïds ont eu un rôle énorme.
Oui, effectivement, les tabloïds ont un rôle essentiel et un rôle énorme, et j'irais même un peu plus loin, destructeur, parce que le prince Harry, et j'imagine vous allez revenir plus tard, il a dit dans une interview dans une chaîne de télé, la chaîne de télé ITV News, il y a 2 ans je crois, il a dit quand il entendait un clic d'un paparazzi, ça lui faisait penser à son enfant. Et c'est pour ça qu'il voulait quitter la famille royale, parce qu'il ne voulait pas que la même chose que la princesse Diana a vécu se produisait au sein de sa propre famille. Et donc, c'est pour ça qu'il a voulu préserver sa vie privée. Et Kate Middleton, par exemple, la duchesse de Cambridge, au début, elle a reçu beaucoup de critiques. Et aussi, la duchesse de Cornouailles, Camilla, elle a reçu beaucoup de critiques aussi de la part de paparazzi. Et donc, les paparazzi ont un rôle destructeur. Mais et donc c'est pour ça que la reine d'Angleterre elle a ou la famille royale ils ont ce proverbe never complain never explain. Il ne faut jamais se plaindre, il ne faut jamais expliquer en fait.
Jamais se justifier. Jérôme Caron d'ailleurs, pourquoi la reine n'est jamais paparazzée? Parce qu'elle est trop entourée, elle est inaccessible, elle sort jamais de toute façon.
De toute façon, elle est extrêmement inaccessible et extrêmement protégée, entourée. Et je pense que les limites peuvent être franchies jusqu'à un certain point. Vous vous attaquez à une icône vivante, vous vous attaquez à un monument historique. On ne va pas paparazzer la reine. Et puis il y aurait peu de choses à paparazzer quelque part en dehors du fait qu'elle fasse.
On la voit quand même de temps en temps là récemment,
à 95 ans, elle continue régulièrement à monter à cheval, ce qui fascine tout le monde. Mais c'est les seuls paparazzades possibles. Il existe une photo extrêmement rare où on la voit courir lors d'une championnat d'attelage, tout simplement parce qu'elle était en retard pour voir son mari.
Mais ces paparazzades, donc ces photos, hein, si on peut les appeler comme ça, parce qu'il y a les photos officielles et les photos vraiment volées, vous en servez dans des magazines comme Point de Vue et dans les magazines en général, People?
Ça dépend du type de magazine. Nous, à Point de Vue, on ne fait pas. Je le répète régulièrement à tous les gens que je rencontre
parce que ça vous sert quelque part.
Les images sont parfois brouillées. On peut éventuellement expliquer qu'il y a eu des photos volées, mais on ne les publiera jamais. C'est pas notre culture, c'est pas notre ligne éditoriale. On fonctionne pas comme ça. Nous, notre idée, c'est de raconter des histoires, d'essayer parfois d'angler les histoires de manière historique.
Vous n'utilisez jamais de photos dites
jamais.
Volées.
Jamais.
Jamais. Et vous utilisez quoi comme photos? Alors les photos officielles fournies par la famille royale.
On utilise les photos officielles. On utilise la législation française est extrêmement rigoureuse sur le droit à l'image. C'est l'une des plus violentes qui existe en Europe. Donc de toute façon, si vous publiez des photos sans autorisation, vous avez une grande chance de vous faire attaquer.
On l'a vu pour un certain magazine qui a publié des photos de Kate Middleton seins nus sur
on se serait jamais permis, et je ne crois même pas qu'on ait parler de cette information.
Linda Mage, d'ailleurs, c'est un petit peu le paradoxe de tout ça, c'est-à-dire que vous, comme plein d'autres gens, vont aller regarder ces images, ils vont vouloir voir un petit peu, mais quelque part, vous vous alimentez, ce qui est destructeur, comme le disait Alexander Seale.
Alors moi aussi, j'ai une ligne éditoriale, je ne publie jamais de photos volées.
Oui, mais en tant que passionnée, si vous voyez les photos, oui, vous allez aller regarder.
Je regarde, mais je m'arrête là, parce que je trouve que Kate et William nous donnent assez à voir comme cela, et je ne veux pas tomber dans ce voyeurisme, toutes ces photos qui circulent sur les réseaux sociaux.
N'empêche que ça marche. Je veux dire, quand Diana, étant une de Paris Match quelques mois avant sa mort, effectivement, sur son maillot, dans son maillot léopard au bout de son yacht.
Oui, c'est des photos qui ont fait le tour du monde. Oui, ça fait des ventes. D'ailleurs, Jérôme ne me contredira pas. On met, si Point de Vue met un des membres de la famille royale en couverture, Point de Vue va vendre énormément de magazines. Si on met la famille de Monaco, je pense que Jérôme ne me dira pas le contraire. On vend à moins de voilà.
Non, ça se vaut.
Monaco et Angleterre, c'est
assez proche. Alors après, ça dépend de l'impact du sujet que vous mettez en couverture aussi. Si c'est juste une soirée sans enjeu, juste une mondanité où on les voit sortir, donc ça va être intéressant. Mais si derrière, comme ça sera le cas, prochainement, dans Point de Vue, il y aura une soirée avec une histoire qui s'accroche. Là, vous faites plus de ventes. Mais ça, les deux se valent. Après, il y a des personnages qui fonctionnent très bien, des personnages qui fonctionnent moins bien. La reine d'Angleterre fonctionne très bien. William fonctionne très bien.
George se met en place, qui aura 8 ans dans deux jours.
Personne n'y croit, puisqu'on l'a tous, on a tous attendu sa naissance pendant très longtemps. Ça se met en place doucement. Après, George a été extrêmement protégé par ses parents. C'est là aussi, pour revenir sur ce que disait Alexander Seale et le côté destructeur des paparazzi, lorsque William et Harry marchent derrière le cercueil de leur mère au mois de septembre 97 devant le monde entier, ils deviennent les orphelins du monde entier. Donc il y a une attente qui s'est décuplée à ce moment-là d'informations sur eux, de savoir ce qu'ils voulaient. La famille royale a passé un gentleman agreement avec les princes, avec le Royal Rota, qui constituait une association de journalistes qui suivait la famille royale britannique, en disant: vous ne publierez pas d'informations tant que leur scolarité ne sera pas finie, ce qui a été fait. Et puis ensuite, plus tard, il y a eu des dérapages.
Alors Alexander Sid, justement, nous parlait du prince Harry et de ce qu'il peut dire sur les paparazzi en particulier. Écoutez cette interview, il y a quelques années, c'était sur la BBC et il parlait des photographes la nuit de la mort de sa mère. Le plus dur à accepter, c'est le fait que ceux qui l'ont chassé dans le tunnel sont les mêmes qui la prenaient en photo alors qu'elle était en train de mourir à l'arrière de la voiture. Et ces gens qui ont causé l'accident, au lieu de l'aider, ils continuent à prendre des photos. Et ces photos sont, et ces photographes sont ensuite retournés dans leur rédaction. Philippe Chassaigne, le rôle des tabloïds, encore une fois, est-ce qu'il est Harry le critique, évidemment, mais Harry se sert aussi, alors pas des tabloïds, mais de la presse. Là, je disais tout à l'heure, il va même publier un livre dans un an. Est-ce que la meilleure façon, finalement, de ne pas être embêté par les médias, c'est de s'en éloigner de quelque façon que ce soit ?
Avant de répondre à votre question, je voudrais juste revenir sur les photographies de Diana en maillot de bain léopard, hein, qui ont été évoquées à plusieurs reprises. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces photographies, c'est elle qui les a laissées prendre. Ce ne sont pas des photos volées. Elle était sur le yacht de Dodi Fayed et il y avait une armada de journalistes. Elle est allée les voir, leur parler, leur expliquer quand est-ce qu'elle serait sur le ponton arrière, qu'elle prendrait la meilleure pose, etc.
Donc c'était un peu des fausses photos volées, en fait.
C'était pas des photos volées du tout. À l'époque, il n'y avait pas un seul téléobjectif qui permettait de prendre des photos aussi nettes à 500 mètres ou un kilomètre. Les paparazzi étaient à quelques dizaines de mètres du yacht. C'était fait uniquement pour attirer l'attention et mobiliser les médias.
Vous dites confirme ce qu'on, c'est-à-dire qu'il y a aussi une.
Il faut s'en servir, oui.
Mais pourquoi?
Diana était très bonne, justement utiliser les médias. Donc chaque fois qu'elle se plaignait de l'attention des médias, il faut pas oublier que c'est elle qui n'hésitait pas à appeler les rédactions pour dire la princesse Diana sera tel jour à tel endroit à telle heure pour faire ceci ou cela.
Et Harry, par exemple, alors Philippe Chassaigne.
Justement, je pense que Harry a bien compris que comment dire. Essayez d'utiliser les médias, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire unilatéralement. Donc vous utilisez les médias, mais ils vous utilisent aussi. Vous servez des médias, ils se servent de vous. On a vu avec l'interview d'Oprah Winfrey qui a suscité un énorme intérêt, puis après on s'est rendu compte que un certain nombre des éléments qui étaient présentés étaient inventés, que tout était surjoué, que Meghan Markle est pas montrée pour une fois, c'était une excellente actrice, elle a regardé l'émission, l'interview de la princesse Diana en 1995 Panorama, et elle l'a appliqué à la situation depuis début 2021. Voilà, et finalement après les conséquences à moyen terme de cette interview ont été finalement assez mauvaises pour Harry et Meghan. Donc penser qu'on peut se servir des médias unilatéralement, c'est faux. Et peut-être qu'effectivement la seule solution, c'est d'essayer de prendre de la distance, hein, et dans ces cas-là, ne pas entrer dans ce jeu qui est un jeu très compliqué, très risqué, encore une fois.
Alexander Sid, les tabloïds en particulier aujourd'hui en Angleterre, je pense au Sun en particulier, hein, d'ailleurs qui avait fait plusieurs unes avec Harry, notamment une le montrant déguisé en nazi. Est-ce qu'ils se sont calmés aujourd'hui ou est-ce qu'ils continuent ?
Ils continuent et on a vu cela après l'interview d'Oprah Winfrey. Il y avait un débat et ce débat a divisé la population ici au Royaume-Uni. Et c'était un peu comme le Brexit, on peut dire, parce que il y avait des personnes qui étaient pour Meghan et Harry et il y avait des personnes qui ont dit que Meghan et Harry n'auraient pas dû faire cette interview. Donc, ce débat-là, les tabloïds et la population étaient très, très, très divisés.
Et Jérôme Caron, est-ce que le rôle de, j'en parlais tout à l'heure en introduction, de la série Netflix, The Crown, sur la famille royale, est-ce que ça fait un peu d'eau dans le moulin, en fait? Ça vient un petit peu raviver
La famille royale, on s'y intéresse lors des naissances, lors des mariages ou lors des morts dramatiques, comme c'est le cas de la princesse Diana. Ce qui est étonnant avec The Crown, c'est qu'en effet, il y a eu une espèce d'élargissement de la population intéressée ou qui s'est intéressée de manière un peu plus approfondie à la monarchie britannique, ce qui n'était pas le cas avant. C'était quelque chose entre spécialistes, il y avait les fans et puis il y avait les gens qui regardaient ça de loin seulement pour les grands événements. Et puis The Crown a ouvert complètement les vannes Et ça continue, c'est ça qui est impressionnant, c'est que dans n'importe quel dîner, lorsque vous travaillez là-dedans, on vous pose des questions sur Meghan, on vous pose des questions sur Harry, que ce soit en effet, comme je le disais, votre grand-mère, votre mère, votre petite cousine. Tout le monde s'intéresse ou a un avis parce qu'il y a cette idée de projection.
Tout le monde s'intéresse ou a un avis, justement, j'allais dire, il y a quand même des gens, je pense, même s'ils peuvent pas empêcher d'en entendre parler, ils en sont complètement indifférents.
Tout à fait,
ou alors même, on les déteste. J'ai un message sur l'application France Inter d'Aurélien qui nous écrit « Nous, Français, adorons détester la famille royale sans en comprendre l'attachement des Anglais. »
Mais c'est tout le paradoxe des relations entre la France et la Grande-Bretagne. Ce sont nos meilleurs ennemis ou nos meilleurs amis selon l'humeur, selon le match de rugby, selon tout un tas de trucs. C'est une relation d'admiration et de haine. On adore les Anglais sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils montrent. Et de notre côté, ils nous adorent aussi. Et en même temps, dès qu'on peut trouver des points de divergence, on les appuie et on les accentue. Il y a une vraie fascination pour la famille royale en France. Ce qui est assez étonnant, les documentaires ont plutôt de bonnes audiences sur les chaînes d'information. C'est en effet cette projection, cette idée de retrouver des problématiques familiales propres et de pouvoir les poser ou les encadrer ou tout au moins les faire incarner par les différents personnages, notamment dans Netflix.
Alors, on a pas mal de messages d'auditeurs qui, eux, n'aiment pas du tout la famille royale et s'offusquent
ils ont tout à fait le droit.
En disant comment ça se fait, vous n'ayez pas de contradicteurs. Eh bien, chers auditeurs, sachez que ça ne se trouve pas si facilement, les contradicteurs. Sinon, il y en aurait un sur ce plateau. En tout cas, les contradicteurs légitimes, on va le dire comme ça. Sur le mail, Yves nous écrit, par pitié, arrêtez de dire les Français sont passionnés par la famille royale. La vérité, c'est juste que des Français sont passionné, merci. Et Gilles nous écrit, lui, sur l'application France Inter, peut-on vraiment dire que les Français s'intéressent plus à la monarchie britannique qu'aux autres monarchies européennes? Linda Mash, hors Monaco, est-ce que vous, il y a une autre monarchie, je ne sais pas, en Suède qui vous intéresse?
Alors, moi, écoutez, c'est la famille royale qui me fascine.
D'Angleterre.
La famille d'Angleterre. Pourquoi? Parce que il y a cette idée du faste, des carrosses, les tiares, enfin, tout l'apparat. Les cours scandinaves sont beaucoup plus minimalistes. Pour en revenir à ce message qu'a laissé un auditeur, il est vrai que ce ne sont pas l'ensemble des Français que la monarchie fascine. Moi, je peux, comment dire, vous donner, enfin faire un petit sondage déjà auprès de ma communauté, les femmes adorent Kate.
Oui, mais votre communauté vient vous voir, donc d'entrée, elle est évidemment intéressée.
Elle vient me voir, mais les femmes sont fascinées par la duchesse de Cambridge et j'ai une couverture internationale qui est importante. Bon, c'est surtout la famille royale d'Angleterre. Les autres cours ont beaucoup moins de, je trouve, suscitent beaucoup moins d'intérêt.
Et on va parler de certaines critiques parce que même si Kate Middleton, vous l'adorez, il y a certaines personnes qui pointent un certain conservatisme ou des valeurs pas tout à fait en adéquation avec notre époque. D'ailleurs, je vous cite un message de Patrick qui nous écrit « Débat, je n'entends que glorification de la reine, personne pour critiquer ce système monarchique, cela n'agace personne, que personne puisse hériter d'un pays et de ses habitants. » Eh bien, vous savez quoi, Patrick? On en parle dans un instant.
Je ne suis qu'une imbécile allongée sur le dos, je me refais le fil. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. 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 Je te sens au loin, chasser mon souvenir. Palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais. Dans un miroir sans teint d'où je te regarde, t'en sortir à merveille, épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
Je l'ai dans la tête pour au moins une semaine, Clara Luciani avec Le Reste et Valentine Chedebois. On te remercie pour la programmation musicale.
France Inter. Le débat du midi. Camille Cronier.
Et ça fait du bien un petit peu de Clara Luciani dans les oreilles pour parler aujourd'hui de la famille royale d'Angleterre avec mes quatre invités. Jérôme Caron, grand reporter au magazine Point de vue, spécialiste de la famille royale. Philippe Chassaigne, professeur d'histoire contemporaine et particulièrement du Royaume-Uni, l'histoire contemporaine du Royaume-Uni à l'université Bordeaux-Montaigne. Nous sommes aussi avec Alexander Seal, anglais en direct de Londres, journaliste correspondant pour plusieurs médias français. Et avec vous, Linda Mach, à mes côtés dans ce studio, styliste, et vous avez créé le blog Dans le boudoir de Kate Middleton, où donc on peut retrouver toutes les tenues de la princesse Kate Middleton, c'est
oui,
ça ?
On ne retrouve pas que les tenues, on retrouve aussi des synthèses de ses principaux engagements, ainsi que des sujets périphériques qui plaisent à mes lectrices, et on garde cette thématique de la famille royale, cette ligne rouge, et on parle aussi de cuisine, de spécialités britanniques, etc.
Et donc, on disait avec ce message de Patrick sur le mail de France Inter, je n'entends que glorification de la reine, personne pour critiquer ce système monarchique. Eh bien, si, nous allons si, critiquer.
On peut toujours critiquer.
Non, Jérôme Caron.
Bien évidemment que c'est critiquable. C'est la monarchie britannique, à quoi elle sert? Ça coûte de l'argent, ils ne servent à rien, ils passent leur temps à se dorer la pilule. C'est des critiques qu'on entend très régulièrement.
Majorité de Français, d'ailleurs, qui disent dans un sondage, par exemple, de 2015, qu'elle est très sympathique, mais qu'elle est inutile. Alors, Alexander Seal, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement le rôle aujourd'hui, le rôle concret de la famille royale d'Angleterre, la famille royale britannique ?
Le rôle concret de la famille royale, c'est de vendre le Royaume-Uni. Par exemple, si un chef d'État vient pour une visite d'État, par exemple, c'est de l'accueillir. Et quelle bonne chose de vendre ce pays. Et par exemple, le prince William, par exemple, il peut, par exemple, inaugurer un stade de football, par exemple, où la reine d'Angleterre peut inaugurer une association. Donc
c'est symbolique,
de vendre le Royaume-Uni.
C'est l'hymne. Alors, Jérôme Caron.
C'est pas uniquement
c'est
oui, il y a cette part d'image, il y a cette part de soft power de Mark Windsor, de Mark Grande-Bretagne qu'ils incarnent absolument bien, extrêmement bien. Mais il y a aussi une part diplomatique. Récemment, William, depuis le Brexit, passe son temps à faire des voyages officiels dans différents pays d'Europe, histoire de resserrer un peu les liens, histoire de montrer qu'on n'est pas totalement de l'autre côté de la Manche et qu'il reste le tunnel. La reine Elisabeth II, via le Commonwealth, a beaucoup adouci ou arrangé certaines certaines relations diplomatiques entre certains chefs d'État. Elle a un espèce de soft power aussi au niveau politique, extrêmement léger. Et c'est surtout, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte énormément d'argent.
Le mariage, à qui ça rapporte de l'argent?
À la Grande-Bretagne de manière générale. La monarchie britannique coûte 1,5 livre par an et par Britannique.
Donc alors, c'est... on a justement, pardon, des messages par rapport à ça. On a un mail pour nous dire que la reine d'Angleterre ne sert à rien et la famille royale possède des fortunes non méritées et coûte de l'argent au peuple. Est-ce que c'est une légende de dire que ça coûte de l'argent au peuple anglais, britannique?
C'est 1,5 livre, ça fait 1,20 € par an. C'est pas non plus extrêmement excessif à payer par an. Pour le moindre mariage, c'est 2 milliards de téléspectateurs. Harry et Meghan, il y avait 2 milliards de téléspectateurs. Comme il y avait 2 milliards de téléspectateurs pour William et Kate, il y a eu 600 000 touristes qui ont débarqué à Londres à l'occasion du mariage de William
et
Kate.
Donc ça fait vivre l'économie.
Vous ne pouvez pas aller à Londres sans passer devant Buckingham Palace. Tout au moins, tout le monde a le droit de le faire et de ne pas s'intéresser du tout à ça, je l'entends bien. Mais il y a de toute façon une réalité économique derrière qui existe.
Philippe Chassaigne, je vous donne la parole, mais juste avant, je vous lis un autre message de Franck, auditeur, qui nous écrit: au pilori, tous ces nantis de la société qui ont spolié les gens du peuple pendant des siècles et encore aujourd'hui, la noblesse possède la grande majorité de la richesse anglaise. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, vous?
Ce sont des arguments qui sont tellement entendus que y répondre est assez facile. Alors bon, tout d'abord, j'essaie d'aller à l'essentiel. Bon, bien sûr que tous les Français ne sont pas fans de la famille royale britannique. Mais quand on voit les ventes de journaux, les scores Audimat des émissions, on peut dire que beaucoup de Français sont intéressés par la famille britannique. Pour ce qui est de du fait que la noblesse britannique possède la majorité de la propriété foncière, bah oui, c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas eu de révolution française en Grande-Bretagne. En France, il y a eu une révolution française, et donc les nobles ont été dépossédés. En Angleterre, non. Ils n'ont pas fait de révolution depuis 1640, il n'y a pas eu de transfert de propriété foncière depuis le 16e siècle, on n'y peut rien, c'est comme ça. Pour ce qui est de la monarchie qui aurait spolié les Anglais puis les Britanniques depuis des siècles, c'est absolument faux, dans la mesure où depuis le 17e siècle, il y a la liste civile, qui est la somme qui est votée chaque année par le Parlement pour que le souverain accomplisse ses fonctions officielles. C'est justement pour éviter que le souverain ne lève des impôts de façon arbitraire, ce qui est effectivement le cas au Moyen-Âge et au 16e siècle encore, que la liste civile a été mise en place. Elle a changé de nom, mais elle existe encore aujourd'hui. Donc voilà, non, il n'y a pas, on ne spolie pas le pauvre britannique.
Et au-delà des arguments sur la fortune donc supposée de la famille royale britannique,
la fortune est réelle, ça c'est incontestable, mais c'est la fortune privée. Voilà. Et la reine n'est pas la personne la plus riche du Royaume-Uni. La personne la plus riche du Royaume-Uni, c'est un mania de l'acier et un oligarque russe. Donc voilà.
Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a d'autres critiques, notamment sur les protocoles et les valeurs aujourd'hui qui sont véhiculées par cette famille royale britannique. Linda Mash, tout à l'heure, vous me parliez des tenues de Kate Middleton. Aujourd'hui, dans la société, on parle beaucoup de féminisme, on parle beaucoup de racisme. On va d'ailleurs écouter, Meghan Markle, qui a dit qu'elle avait été victime de racisme, et son fils, leur fils avec Harry, Archie également. Et elle parlait aussi notamment des pressions que les codes liés à cette famille royale font. Cette pression font, c'était donc dans leur interview à Oprah Winfrey, il me semble, c'était l'an dernier. C'est ça, Jérôme Caron, l'interview?
Non, c'était au printemps.
Ah, c'était au printemps dernier. Vous voyez, je crois que c'était déjà l'année dernière. On écoute en tout cas.
I was really ashamed to say it at the time.
J'avais vraiment honte de devoir le dire à l'époque, et honte de devoir l'admettre à Harry en particulier.
Because I know how much loss he suffered.
Je savais qu'il était très triste.
But I knew that if I didn't,
mais je savais que si je ne disais rien,
that I would do it.
Je me ferais du mal.
I just didn't want to be alive anymore.
Je ne voulais tout simplement plus vivre. Jérôme Caron, toute cette pression, encore une fois, elle est réelle aujourd'hui. Est-ce qu'elle est encore cohérente avec l'époque à laquelle on est aujourd'hui?
Elle est cohérente avec la fonction, avec l'époque. Vous avez d'autres activités. Si on parle des gens normaux, on peut penser au personnel hospitalier qui vit sous pression, qui vit une pression extrêmement forte et violente. Là, c'est une pression monarchique, institutionnelle, qui, certes, pour tout un tas de personnes, et c'est tout à fait respectable, n'a pas d'intérêt ou n'a pas lieu d'être, mais c'est une réalité. Après, comment gérer cette pression? Il y a eu un décalage peut-être culturel, ou tout au moins de différence d'appréciation entre ce que Meghan a peut-être surestimé ses forces ou a sous-estimé ce qu'on allait lui demander. Il y a une vraie difficulté par rapport à Meghan et Harry. Ensuite, Meghan a des combats qui sont très nobles pour le féminisme, pour l'éducation des enfants,
contre le racisme,
qui sont
la cause animale, ne l'oublions pas,
qui sont très actuelles. Et il se trouve qu'ils sont en même temps très ciblés. Et le on en revient avec cette histoire de reine d'Angleterre qui est au-dessus des partis. C'est-à-dire que à partir du moment où ils sont très ciblés, vous pouvez catégoriser une partie de la population et la famille monarchique britannique ne peut pas se permettre de catégoriser une partie de la population. Elle doit être la famille de tous les Anglais. Le prince William fait beaucoup de choses, par exemple, pour la santé mentale, comme son frère.
Oui, mais pardon, mais je continue sur ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un côté très rétrograde de la famille royale britannique aujourd'hui, Linda Mash? Est-ce que le fait on est marié, un homme, une femme mariée, pas de divorce. Alors le divorce de Charles, il a fallu des années. Oui, mais ça avance. Mais je veux dire quand même, par rapport à l'époque à laquelle on est aujourd'hui, ça paraît totalement décalé, non? Vous trouvez pas?
Non, moi ça me dérange pas parce que, comment dire, c'est une famille, c'est l'aventure humaine, on se marie, on divorce. Mais c'est surtout, moi ce qui me fascine, c'est... Comment dire, c'est cette dimension, la reine. Je vais plutôt axer ma discussion sur la reine. C'est une personne rassurante, voilà. C'est une personne rassurante. Le Royaume-Uni, nous n'avons pas de souverain, mais au Royaume-Uni, il y a ce socle, si vous voulez, ces valeurs et cet ancrage parallèlement dans la modernité.
Philippe Chassaigne, sur les bousculements là, des derniers mois, des dernières années, est-ce que ça veut dire que les choses vont continuer à avancer et que peut-être quand la reine ne sera plus là, que ce soit Charles, William ou plus tard George, roi d'Angleterre, déjà ce sera un homme, est-ce que les choses vont changer et continuer d'évoluer? Et je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais se moderniser encore plus, en tout cas être plus en adéquation avec l'époque à laquelle on vit.
Mais je ne suis pas certain que les Britanniques attendent que la famille royale soit en adéquation avec l'époque dans laquelle elle vit.
Ah bon?
Lorsqu'on demande aux Britanniques ce qu'ils pensent de la reine, ils disent très souvent que c'est a beacon, un point de repère. Donc en fait, c'est justement c'est cette stabilité qui les conforte.
Même en Angleterre, Philippe Chassaigne, on a vu récemment des étudiants décrocher le portrait de la reine. Je crois que c'était à l'université d'Oxford. Il y a quand même des voix, y compris en Angleterre, qui sont en train de vouloir un peu agiter cette monarchie. Quoi.
Ah oui, mais ça, il y en a toujours eu. C'est bien normal. De toute façon, la monarchie outre-Manche est soutenue par, en tant qu'institution, est soutenue par 80% de la population. Mais il y a 20% qui ne sont pas monarchistes, qui sont républicains, et c'est tout à fait leur droit. Alors après, pour ce qui est des évolutions, des évolutions, il y en a quand même, parce que, alors là, c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'un Windsor épouse, fréquente et ensuite épouse une américaine. Édouard VIII avait abdiqué pour épouser Wallis Simpson, et là,
ils sont partis,
ils sont partis, parce que, effectivement, comme l'a dit Jérôme Caron, manifestement, là, Meghan Markle n'a pas bien compris ce que c'était qu'être une princesse dans la famille royale.
Ou ça ne correspondait pas à son désir d'être, tout simplement, et qui est tout à fait légitime.
Peut-être que c'est simplement une ligne de plus sur son CV. Hein.
Mais donc ce que vous dites aussi bien vous, Philippe Chassaigne, que Jérôme Caron, et même vous, Linda Mash, c'est qu'il y a un conservatisme quelque part assumé et validé par
nécessaire.
Le peuple.
Il y a un conservatisme nécessaire pour faire perdurer l'institution. Le grand boulot de ces gens-là, au quotidien, c'est de faire perdurer quelque chose qu'en effet, une grande partie de la population, ou une partie de la population, selon les pays, trouvent désuètes ou inutiles ou dont le faste ne sert à rien.
Donc en fait, pardon, ce que vous dites, c'est que la famille royale britannique ne durera que par son conservatisme ?
Elle ne durera que par son respect d'être de son identité. Et de cette obligation qui est faite de se donner corps et âme, avec les problématiques que ça implique et qu'on peut supporter ou pas, Meghan Markle ne les a pas supportées, les parties, pour cette institution. Et donc, mais malgré tout, sur les 4 enfants de la reine Elisabeth II, il y en a 3 qui ont divorcé. Donc c'était quelque chose qui était totalement inimaginable dans les années 60-50. Ça fait très loin, certes, mais c'est une évolution. Mmh. Elle a pris son premier avion, elle avait 20 ans. Elle a aujourd'hui une page Facebook, un compte Twitter et peut-être un compte TikTok. Les choses évoluent.
Alexander, quand la reine va mourir, qu'est-ce qui va se passer en Angleterre?
Ça va être un grand bouleversement ici en Angleterre. Il va falloir changer l'hymne national ici. L'hymne national sera God Save the King. Le roi sera Charles ou William. Il va falloir aussi changer le portrait du souverain sur les billets de banque ici. Il y aura aussi une période de deuil national
Et ça, justement, Jérôme Caron, ça sera mondial, j'imagine.
Ce sera un deuil mondial, ce sera beaucoup plus que national. La reine Elisabeth II est la personne la plus connue dans le monde à l'heure actuelle. Qu'on l'aime, qu'on la déteste, qu'on la trouve utile ou inutile, elle est la plus connue. Vous allez n'importe où dans le monde, vous me dites l'Angleterre et les gens vous répondent Elisabeth II. Les Chinois connaissent d'abord Elisabeth II et ensuite Big Ben.
Allez, avant de se quitter comme tous les jours, le mini débat aujourd'hui sur Twitter, on vous posait cette question. Kate et William ou Harry et Meghan? Qu'est-ce que vous répondez, Jérôme Caron?
Moi, je suis pour que l'institution perdure, donc je suis Kate et William.
Moi, je suis aussi Kate et William.
Philippe Chassaigne.
Moi aussi.
Oh, pardon?
Je dis moi aussi Kate et William.
Vous aussi Kate et William. Et enfin, Alexander Seal, Kate et William ou Meghan et Harry?
Kate et William.
Eh bien, c'est Meghan et Harry sur Twitter qui gagnent aujourd'hui avec presque 62% des votes et 38% pour Kate et William. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Linda Mage, donc Alexander Seal de Londres, Philippe Chassaigne et Jérôme Caron. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis, les amis, à demain, on parlera de la PMA pour toutes.